Audiolib présente
La trilogie berlinoise L'été de cristal
de Philippe Kerr, lu par Julien Châtelet.
À ma mère. Berlin, 1936. Premier homme. Tu as remarqué comme les violettes de mars ont réussi à écarter complètement les vétérans du parti comme toi et moi? Second homme. Tu as raison. Peut-être que si Hitler avait lui aussi attendu un peu avant de prendre en marche le train nazi, il serait devenu Führer plus vite. Schwarzkorps, novembre 1935. Chapitre 1. Et des choses plus étranges encore peuplent les songes noirs du grand hypnotiseur. Ce matin, à l'angle de Friedrichstrasse et de Jägerstrasse, je vis deux hommes, deux SA, qui démontaient une des vitrines rouges où est affiché chaque nouveau numéro du Stürmer. Der Stürmer est le journal dirigé par Julius Streicher, le propagandiste antisémite le plus virulent du Reich. Ces vitrines où s'étalent les dessins à moitié pornographiques de jeunes ariennes soumises à l'étreinte de satyres au nez crochu sont destinées à attirer et à titiller les esprits faibles. Les gens convenables n'ont rien à faire de ça. Les deux SA déposèrent le panneau dans leur camion déjà à demi rempli de vitrines identiques. Ils opéraient sans ménagement, car deux ou trois vitres étaient brisées. Une heure plus tard, je revis les deux mêmes SA en train d'emporter une autre vitrine installée à un arrêt de tramway devant l'hôtel de ville. Cette fois, je m'approchais pour leur demander ce qu'ils faisaient. « C'est pour les Olympiades !» m'informa l'un d'eux. « On nous a ordonné de les faire disparaître pour ne pas choquer les étrangers qui viendront assister aux Jeux. » À ma connaissance, c'était la première fois que les autorités faisaient montre de tels égards. Je rentrais chez moi dans ma vieille anomague noire et mis mon dernier costume présentable en flanelle gris clair qui m'avait coûté 120 marques 3 ans auparavant. Il est d'une qualité qui devient de plus en plus rare dans ce pays. Tout comme le beurre, le café et le savon, le tissu qu'on utilise à présent n'est qu'un ersatz. Pas très solide, quasiment inefficace contre le froid en hiver et très inconfortable en été. Je me contemplais dans le miroir de la chambre et parachevais ma tenue avec mon plus beau chapeau. Une coiffure de feutre gris foncé à large bord, entourée d'un ruban de soie noire. Un modèle fort répandu. Mais comme les hommes de la Gestapo, je le porte d'une manière particulière, le bord rabattu sur le devant. Cela a pour effet de dissimuler mes yeux, de sorte qu'il est plus difficile de me reconnaître. Un style lancé par la police criminelle de Berlin, la Kripo, au sein de laquelle je l'avais adopté. Je glissais un paquet de Murati dans la poche de mon veston et, serrant sous mon bras avec précaution une porcelaine Rosenthal emballée d'un papier cadeau, je sortis dans la rue. Le mariage avait lieu à la Lutherkirche, sur Dennewitzplatz, juste au sud de la station ferroviaire de Potsdamer Straße, à 2 pas de la maison des parents de la mariée. Le père, Herr Lehmann, conducteur de locomotive, emmenait 4 fois par semaine l'express D-Zug de la gare Lehrter jusqu'à Hambourg. La jeune mariée, Dagmar, était jusqu'alors ma secrétaire, mais je n'osais imaginer ce que j'allais faire sans elle. À double titre. Non seulement elle était une secrétaire efficace, mais j'avais également songé plus d'une fois à l'épouser. C'était une jolie fille. Elle mettait un peu d'ordre dans ma vie et je suppose que je l'aimais à ma manière. Mais à 38 ans, j'étais probablement trop âgé pour elle et elle devait me trouver un brin rasoir. Je ne suis pas du genre à faire la nouba et Dagmar mérite de s'amuser. Elle épousait un aviateur. Lui avait tout pour la séduire. Il était jeune, beau et, dans son uniforme du corps d'aviation national socialiste, il était l'image même de l'arien viril et conquérant. Pourtant, je fus déçu lorsque je le vis à la cérémonie. Comme la plupart des membres du parti, Johannes Burkel se prenait incroyablement au sérieux. Ce fut Dagmar qui fit les présentations,